I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cher journal, à la page précédente, j'ai raconté la découverte récente de mes problèmes de fertilité et le fait que j'étais très surprise d'être confrontée à cette difficulté aujourd'hui, sachant que depuis la naissance de mon fils il y a 10 ans, j'ai fait deux grossesses qui se sont soldées par deux fausses couches sous pilule. La première fois, il s'agissait d'un œuf clair, d'une taille correspondant à 7 semaines d'aménorrhée, soit à plus d'un mois de grossesse. Le développement du sac embryonnaire s'était arrêté et je ne savais pas depuis combien de temps je le gardais en moi. Il n'y avait pas d'embryon, mais cela a mis plusieurs semaines à s'évacuer. Ça n'a pas été facile, mais le fait qu'il n'y avait pas la vie dans cette poche m'a permis de mieux l'appréhender. Malgré tout, je regardais les autres femmes enceintes avec envie et espérais intimement que le gynécologue se soit trompé. Et la seconde fois, c'était très précoce. J'ai soudainement eu des saignements atrocement douloureux, accompagnés de malaise, alors que j'étais en plein milieu de ma plaquette de pilules. J'ai compris, après avoir expulsé un énorme caillot qui m'a libérée deux jours plus tard, que c'était une fausse couche. J'ai vraiment souffert physiquement pendant 3 jours et j'ai même fini aux urgences gynécologiques tellement les saignements étaient hémorragiques. À travers cette triste expérience, je me suis rendu compte à quel point on pouvait se sentir seul à ce moment-là. On ne peut pas en parler parce que c'est soit trop tôt, ou pour mon cas, ce n'était pas désiré ni prévu. Alors on prend sur soi et on continue avec cette cicatrice que l'on tente de masquer. Aujourd'hui, j'ai envie de libérer la parole sur le sujet et de montrer aux femmes ou aux couples qu'ils ne sont pas seuls. J'ai donc invité Chloé, qui elle aussi a traversé cette épreuve comme une femme sur quatre.
Je m'appelle Chloé Elsener, j'ai 31 ans, je vis avec mon chéri Jérémy, avec qui on a une petite fille qui a 15 mois, et je suis hypnothérapeute. Alors, en fait, ça faisait à peu près 8 mois qu'on essayait d'avoir un bébé avec Jérémy. Bah, forcément, tous les mois, j'attendais, et un jour, le test a été positif. On a été super heureux, c'était en novembre... je sais plus, 2018 ou 2019, je suis un peu perdue dans les dates. On a décidé de l'annoncer à nos familles proches, donc mes parents, ses parents, ben, tout le truc classique, quoi. On découvre qu'on attend un bébé. Alors, on l'a annoncé très vite à nos familles.
D'accord.
Nos familles, ouais. Moi, ouais, on pouvait pas faire sans, déjà, parce que moi, mes parents, ils me connaissent par cœur et ils allaient le découvrir, donc, surtout ma mère. On a décidé de l'annoncer très vite. À mes beaux-parents, on l'a annoncé très vite aussi parce que, ben voilà, on était super heureux et on était hyper positifs. J'ai dû l'annoncer à quelques copines très proches. Il y a des femmes qui préfèrent attendre, il y en a qui l'annoncent à plus de monde. Mais le choix qu'on a fait, c'est de l'annoncer à notre noyau très proche. Et c'était ok pour nous.
Fais pareil, hein. On l'a annoncé tout de suite, quoi. Je fais le test de grossesse, j'ai appelé
ouais,
tout le
monde. Ouais, c'est ça. Moi. Voilà, moi je pense que je l'ai dit au bout de quelques... Je crois que j'ai eu le résultat de la prise de sang, je l'ai dit à ma mère, quoi.
Mais je crois que c'est quelque chose de très personnel. Il y a des femmes qui vont vouloir attendre, d'autres qui ont besoin de le dire tout de suite. Parce que bah, de toute façon, même si ça se passe mal, moi je vois ça comme ça, je me dis au moins je serai accompagnée, je ne serai pas toute seule dans mon coin.
C'est ça. Je me souviens plus exactement si j'ai eu cette réflexion-là. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti. De toute façon, j'avais besoin de le dire à mes copines, j'avais besoin de le dire à ma famille. Moi, je suis rentrée très vite en connexion avec ce bébé. J'étais attentive à mes ressentis. Je sentais qu'à l'intérieur de mon ventre, s'il y avait de la vie, au début, c'était... je commençais déjà à lui parler le soir. J'avais la sensation que j'avais un retour. C'est quelque chose qui s'est fait très facilement... au départ.
C'était ta première grossesse ?
C'était ma première grossesse, ouais. C'est la première fois que je tombe enceinte. J'avais 29 ans, du coup. 29 ans. C'était assez fluide au début et tout. Par contre, j'avais très peur. Dès le début, j'ai eu très très peur de faire une fausse couche. C'était vraiment quelque chose qui m'a envahi très fort, mais... c'était même pas normal. Après, ça m'arrive d'être anxieuse, mais là, ça a dépassé un petit peu mes habitudes. Mmh. J'en parlais beaucoup, je le disais à ma maman de qui je suis très proche, je disais, je sens que je vais faire une fausse couche, j'ai l'impression, j'ai peur. Et puis, forcément, tout le monde me rassurait en me disant, mais non, t'inquiète pas, c'est des peurs, c'est normal, c'est le début, tout ça. Bon. Mmh. Ça, c'était les prémices un petit peu de ce que je peux appeler mes intuitions par rapport à cette grossesse. Et puis ensuite...
On dit souvent que les femmes ressentent. Hein. Moi, c'est souvent après coup que des femmes m'ont dit moi, j'ai ressenti de toute façon qu'il y avait un truc qui n'allait pas.
Ouais, c'est ça. Cette grossesse a été vraiment les premières vraies connexions avec mon corps et aussi de me dire que je pouvais lui faire confiance. Bon. Puis plus le temps avançait, plus je me sentais pas OK avec... voilà. C'est comme si à un moment donné, il y a eu une rupture. J'ai plus... était en connexion comme avant. Il y a un truc qui s'est passé un jour, comme ça. Quand je suis arrivée à 5 SA, je me souviens très bien. Ouais, c'était tout début, je crois que c'était le 10 décembre. J'ai eu mes premiers saignements.
D'accord.
Voilà. Un saignement tout simple, un truc... voilà.
Ce qui peut être banal pour un début de grossesse, ouais, puisque ça peut tout à fait arriver.
Je crois que c'est 25% des femmes qui sont enceintes qui ont des saignements. Donc tout se passait bien, c'était ok, même si j'avais toujours ces peurs et tout, mais y avait rien qui me disait que pour le moment j'étais en train de faire une fausse couche, jusqu'au moment où je me souviens, je me souviens de la date, c'était le 10 décembre, je passe une soirée avec des copines, pas hyper proches, mais voilà, et je leur dis que je suis enceinte. Au moment où je leur dis ça, ça fait un peu greu à l'intérieur de moi, quelque chose qui me dit j'aurais pas dû le dire. Après moi je suis très à l'écoute de mes ressentis. Donc c'est comme ça, déjà avant et encore plus maintenant. Et puis ce soir-là, je rentre à la maison, il était tard, j'ai un premier saignement. Tout de suite le lendemain, j'appelle ma sage-femme qui me dit de venir au cabinet, mais de pas m'inquiéter, ça arrive.
Donc t'étais pas suivie par un gynécologue, mais par une sage-femme, hein, dès le début.
Dès le début, moi j'ai pas... D'accord. Je fais le plus simple, voilà, j'avais pas de gynéco. Je vais voir cette sage-femme, elle me fait un toucher vaginal, elle me dit que mon col est très bien fermé, que ça va, voilà. Et puis ensuite, c'est les fêtes de Noël, rien de plus, sauf que je commence à faire des cauchemars, à faire beaucoup de cauchemars. Je rêvais que je faisais des fausses couches, plus spécifiquement dans ma baignoire, vraiment, je faisais des cauchemars sur cauchemars, de plus en plus d'angoisse. J'étais pas bien du tout, les fêtes de Noël passent, j'étais dans ma belle famille, j'osais pas dire grand chose, mais je faisais beaucoup de cauchemars, j'en parlais un petit peu à mon chéri qui, il est pas dans mon corps, donc il me rassurait, tout ça. Je passe les fêtes de Noël, il me semble que j'ai pas eu de nouveaux saignements à partir de là, j'ai pas de souvenir d'avoir eu des saignements, mais voilà, ça, c'est, le temps passe, le mois de janvier arrive.
Ah oui, ça en est passé du temps.
Ouais, c'est vrai, il s'est passé
entre
beaucoup de temps.
Entre ce premier saignement qui est finalement paraissait banal.
Mais au mois de janvier, je commence à avoir des comme j'étais très à l'écoute de mon corps, je commence à sentir les symptômes, hein, quand on est enceinte et qu'on est angoissée, je pense qu'on peut le dire, on se touche les seins, on va faire pipi toutes les 2 minutes. Comme j'avais saigné une fois, j'allais tout le temps en toilette pour voir si je saignais, je devenais complètement... focus là-dessus et voilà, j'étais de plus en plus angoissée, quoi. C'est un truc que quand on discute avec des femmes, c'est fréquent, hein. Au mois de janvier, on avait l'écho du premier trimestre qui était prévu le 19 janvier, il me semble. Le début janvier passe, je sens que j'ai moins mal au sein comme avant, mais voilà, toujours pas d'autres saignements. J'avais pas envie de faire une écho en urgence, alors je sais pas pourquoi, j'ai pas fait d'écho, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Un lundi, je me souviens, je vais faire un cours de yoga prénatal, qui était ouverte pour les mamans dès le début de la grossesse, donc j'y vais. Et à ce moment-là, à la fin du cours de yoga, la prof de yoga nous dit de nous connecter à notre bébé, elle fait tout un processus de méditation, et là je m'effondre en larmes parce que je ressens rien et j'ai même des images assez je vois du noir, quoi, comme s'il n'y avait plus rien, plus de vie, je sens plus de vie à l'intérieur de moi.
Là t'es à 2 mois à peu près.
Ouais, j'étais à 11 semaines, j'étais dans ma 11e semaine, je pense.
Voilà. Oui, 2 mois et demi, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'était le lundi, et le samedi, j'avais l'écho, en fait. Là, je sens à l'intérieur de moi que c'est le premier gros tilt qui me dit que c'est fini, quoi. C'est vraiment, et c'était du ressenti, alors c'est pas palpable. Et puis quand j'en parlais pas trop, parce que c'est difficile de voir les choses en face, hein, quand c'est juste au ressenti, quoi. Hein. Puis quand j'en parlais à mon chéri, forcément, il me continuait à me rassurer. Voilà.
On a des frissons, parce que c'est fou, ce que t'as vu, ce que t'as visualisé quand même.
Ouais, j'ai eu beaucoup de... Bah, j'ai eu des cauchemars. Le ressenti, ce jour-là qui a été très fort parce que bah, quand on fait de la méditation, on est vachement en lien avec son corps, donc on peut écouter les messages qu'on reçoit de son corps, quoi. Et mon corps, il me disait, en fait, il était en train de me passer des messages, il était en train de me dire que c'était terminé. Il me préparait, en quelque sorte. Un mercredi, donc le mercredi 16 janvier, je me souviens très bien, je marchais, j'avais des lourdeurs dans le bas du ventre, je commençais à avoir des grosses douleurs ce jour-là. Et puis, bah forcément, je vais peut-être un peu émue en racontant tout ça, parce que forcément, il y a encore beaucoup d'émotions. Le mercredi soir, je me souviens, je me couche, j'avais des douleurs. Je dis à mon corps, ça y est, maintenant, là, si c'est fini, il faut y aller, parce que je veux pas arriver à l'écho samedi, donc ma première écho du premier trimestre, et apprendre que c'est terminé, quoi. Donc là, maintenant, voilà, je suis pas forcément prête, mais il faut y aller. Et je m'endors un peu en pleurant, en étant angoissée. Bon, mon chéri s'était déjà endormi, mais voilà, j'étais un peu dans mon monde. Et du coup, le matin, je suis réveillée par des grosses douleurs, je vais aux toilettes et par des saignements, quoi. Enfin, voilà. Et là, je sais que c'est terminé, je sais que c'est fini. Donc je réveille mon conjoint en pleurs. On part aux urgences, je lui dis dans l'ascenseur, je lui dis « prépare-toi, c'est terminé ». On arrive aux urgences, c'est une sage-femme qui nous reçoit, elle pose l'écho sur mon ventre et puis elle me dit « Non, mais de toute façon, moi je sais pas lire les échos », donc elle éteint l'appareil, donc là je me dis « Bon bah c'est bon, ça. J'ai rien entendu, c'est mort quoi, enfin voilà, c'est qu'à le dire, c'est fini, voilà ». Donc là pour le coup on voit un gynéco, génial, mais par contre ça a été un moment très difficile. Il a été très franchement, là pour le coup j'ai eu de la chance parce que je sais que ça se passe pas tout le temps comme ça, mais là il était vraiment bienveillant, attentif et tout, donc il fait l'écho, il nous dit que j'étais censée être à 11 semaines et l'embryon était daté de 5 semaines et demie, 6 semaines je crois, il m'a dit. Donc voilà, ça faisait quelques temps que c'était terminé et mes ressentis étaient justes. Et en fait, il y en avait deux. Un qui était tout petit, qui était même avant les 6 semaines, et un qui était à 6 semaines et demie. Ouais, il y avait deux poches, quoi. Mon chéri, qui croyait toujours jusqu'à maintenant, bah forcément, il s'est un peu écroulé aussi, quoi. Je me souviens, il était derrière moi, et bah voilà, il s'est écroulé comme on peut s'écrouler quand on apprend des nouvelles comme ça, parce que franchement... peu importe le stade de la fausse couche, c'est très difficile, mais en 11 semaines, on a quand même eu beaucoup de temps de se projeter. On arrivait à la troisième écho, donc c'était un peu la fin du premier trimestre. Et donc ça a été, bah, ça a été franchement, ça a été un des jours les plus difficiles de ma vie, quoi. Vraiment, sincèrement. Et en fait, en plus, si on calcule, la fin, ça tombe au 10 décembre. Le jour où j'ai senti que c'était terminé, le premier jour où j'ai eu les saignements.
Ah oui, d'accord, quand t'as calculé le nombre de semaines.
Voilà, ça tombe là. Donc c'est fou, quoi. Et s'ensuit les cauchemars et tout, parce que mon corps m'envoyait des messages, finalement. Il me disait que c'était terminé.
Est-ce que cette expérience a fait que, du coup, tu fais encore plus confiance en ton corps?
Ah bah oui. Après, la suite, ça a été très dur. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. S'en est suivi, bah franchement, je l'ai annoncé à ma famille, j'ai appelé mes proches. Et ce qui a été très fou aussi ce jour-là, c'est que je l'ai annoncé donc à mes parents, à mes beaux-parents, à ma marraine, qui est ma cousine, à mes amis très proches. Et en fait, en 2 heures, chez moi, j'avais plein de monde. J'avais plein de monde, j'avais ma mère, j'avais ma marraine qui arrivait direct. Elles ont tout lâché, elles sont venues et on s'est senti vachement entourées avec mon conjoint en fait à ce moment-là. C'était incroyable. Et c'est pour ça que j'ai jamais regretté de l'avoir dit en fait. Le lendemain, j'avais une amie très proche, qui est toujours très proche, qui était là chez moi, qui venait de loin, qui habitait à Annecy, donc qui venait de loin, qui était là directement. Mes beaux-parents qui sont passés le soir, et ma belle-sœur, qui est sage-femme, qui a passé la journée entière avec moi, parce que mon conjoint, mon chéri, il a dû partir travailler, il n'a pas pu faire autrement, et puis c'était son choix, c'est comme ça. Mais ma belle-sœur est venue toute la journée avec moi.
D'accord.
Et en fait,
ça a dû renforcer vos liens.
Ouais, oui, c'est sûr. Elle a été là à des moments très importants de ma vie, notamment celui-là. Parce qu'elle était, elle a été présente aussi pendant mon accouchement quand j'étais chez moi.
Je m'en doutais, je me doutais.
Ouais, c'est ça. Et donc, elle a été, c'est vrai qu'elle a des moments très forts. Elle a été là toute la journée avec moi, donc je n'ai pas été seule.
Il y a quand même une issue positive à l'histoire, hein, on verra à la fin. Mais il y a une petite fille. Hein,
là, on est un peu dans le drama, mais c'est comme ça, c'est mon histoire.
Oui, c'est la vie. Puis c'est la vie. La vie, c'est aussi la mort. Ouais. C'est aussi la fin, le deuil de certaines choses.
C'est ça. Quand on donne la vie, on donne la mort. C'est ce que j'ai appris, parce que de toute façon, c'est vrai, c'est ça qui est très dur en devenant maman, c'est qu'on donne la vie à un être humain qui un jour mourra, et à un moment ou à un autre. Donc, mais par contre, du coup, j'avais pas tout évacué. Donc le gynécologue m'avait donné le comprimé à prendre pour évacuer l'embryon, les deux embryons, les deux poches. Au début, je les ai pas pris, ces comprimés, parce que je voulais que ça se fasse naturellement. Moi, je suis un peu comme ça. Je me suis dit, mon corps est capable de le faire. J'ai envie de vivre la chose en conscience. Bon, c'était mon choix avant. Il m'a donné le choix du curetage aussi. Il m'a donné le choix de tout ça, donc j'ai eu le choix. Toute la journée, j'ai pensé je disais à mon corps que c'était le moment maintenant, que j'étais prête, que je voulais que ça se termine vraiment, quoi. Donc ma belle-sœur est partie, mon chéri est rentré le soir, et puis j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre. Et en fait, le truc qui est un peu négatif par rapport au gynéco, c'est qu'il m'a dit, vous allez avoir des saignements importants. Mais il m'a jamais expliqué ce qui allait se passer. Et moi j'ai un diplôme d'infirmière à la base, je fais plus ça aujourd'hui, mais j'ai un diplôme d'infirmière, et même en ayant un diplôme d'infirmière, je savais pas comment ça se passait une fausse couche. On nous l'a jamais expliqué au cours, ou en tout cas pas dans les détails. Enfin voilà, il m'a laissé rentrer chez moi avec un médicament en me disant qu'il faut le prendre comme vous voulez, sans m'expliquer ce qui allait se passer. Il m'a juste dit, vous allez avoir des saignements. Sauf que quand on parle à des femmes qui ont eu des fausses couches, ça fait mal. Il m'a pas parlé de douleur. Donc j'ai commencé à avoir ce qu'on peut appeler des contractions.
Ouais, c'était tes premières contractions, t'avais jamais été enceinte et tout. Donc là, t'as été hyper surprise.
Ouais, j'ai commencé à avoir des contractions, ce que j'ai reconnu comme des contractions, parce que c'était ça, j'avais un peu des notions, et c'était régulier, ça venait, ça partait, des vagues, quoi, des contractions. J'avais des contractions de plus en plus fortes, de plus en plus fortes.
Oui, parce que c'est pas parce que la grossesse est pas à terme ou quoi, que les contractions ne font pas mal.
Alors, c'était moins impressionnant que mon accouchement.
C'est pas comme un accouchement, voilà. Mais ça fait quand même.
Mais par contre, c'était vraiment, vraiment des contractions. Et il m'avait donné du spasfon, quoi. Voilà. Sauf que c'est tellement mal pris en charge en France qu'on donne rien d'autre.
Enfin, parce que tu penses que... Toi, du coup, avec ton expérience, tu penses qu'on devrait la prendre en charge comment, la fausse couche?
Moi, je pense que... Déjà, on aurait dû m'expliquer exactement ce qui allait passer. Pas me dire « ça va être des saignements importants ». On aurait pu me dire, vous allez... En fait, une fausse couche, c'est un accouchement. Pas un accouchement d'un bébé à terme à 40 semaines, mais c'est un accouchement d'une poche des os, d'un embryon, qui a forcément quelque chose de plus important que des règles qui sortent de ton corps. Et ça, moi, j'avais... J'ai un diplôme d'infirmière, je connaissais mon corps, mais j'avais pas conscience que ça allait sortir de mon corps et que, du coup, mon col de l'utérus allait devoir s'ouvrir un minimum, en fait, à un moment donné, pour évacuer ces deux poches, en plus.
Est-ce que t'as eu l'impression d'avoir un double deuil à faire parce qu'il y en avait deux ou pas?
En fait, j'ai jamais su... En fait, moi, dans mon... Quand, le mois que j'ai... D'apprendre qu'il y en ait deux, ça a eu de l'importance, mais en même temps, autour de moi... J'ai eu la sensation, après peut-être que ça s'est pas passé comme ça, mais à mes ressentis, c'est qu'on a minimisé le fait qu'il y en avait deux. On m'a souvent dit, mais on sait pas s'il y en avait vraiment deux, parce que le premier, on voyait pas grand-chose. Mais pour moi, s'il y a eu deux poches, s'il y a eu deux vies, à un moment donné, peu importe. Et en fait, tout d'un coup, donc, j'ai eu mes contractions, et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que je perdais du sang, tout d'un coup. Et en fait, j'ai regardé, il y avait rien, c'était humide comme de l'eau. Et en fait, j'ai compris quelques mois après, j'ai tilté qu'en fait, c'était la poche des os. Parce que même si l'embryon est petit, il y a quand même une poche des os
qui se crée. Elle est là.
Donc j'ai compris que c'était la poche des os qui se perçait.
Ça fait quasi 3 mois, je veux dire.
Donc bon, là, j'ai commencé à avoir très mal. Je sentais que c'était en train de... j'étais en train, entre guillemets, d'accoucher de cet embryon, quoi. Il y a quelque chose qui allait sortir de mon corps. Donc il m'a apporté... je me suis pas mis sur les toilettes.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Comme beaucoup de femmes, je me suis mise dans la baignoire et du coup, bah.
La fameuse baignoire dont
voilà,
tu rêvais.
C'est ça. Je me suis mis... Et c'est pas moi, c'est mon chéri qui m'a porté, qui m'a mis dans la. Enfin, il m'a porté, il m'a aidé à monter dans la baignoire.
C'est limite une prémonition, quoi.
Ouais, c'est ça. Et là, je me suis mise accroupie j'ai commencé à évacuer ces deux poches. Parce que j'ai vu après qu'il y en avait deux. Lui, il me disait regarde pas, regarde pas, regarde pas. Il était très présent, hein. Il a été là, mon conjoint, il m'a accompagnée là-dedans. Hein.
C'est beau parce que ça, ouais, ça a dû vous renforcer, en fait.
Ah ouais, c'était un moment vraiment très dur pour nous deux, mais en même temps, enfin, je veux dire. Dans il m'a porté, quoi. Il m'a porté à ce moment-là. Enfin, moi, j'arrivais même plus à marcher. J'étais en train de perdre pied entre la douleur, entre l'émotion. Et puis, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Pourtant, une fausse couche, quand on en parle autour, ça se passe pas toujours comme ça, mais ça peut se passer comme ça. Enfin, on évacue quelque chose, quoi. Et ça, on le dit pas. Et ça, moi, c'est vraiment le truc. Peut-être parce qu'on a peur d'en parler, parce qu'on a peur de faire peur aux autres femmes et tout. Mais je pense que le savoir, c'est le pouvoir. Mm. Et quand on sait les choses, ça aide, quoi. Moi, j'ai été vachement chamboulée parce que je pense qu'il y a eu... J'ai eu le trauma de pas savoir ce qui se passait pour moi, de pas le comprendre. J'ai compris après. Là, je suis capable d'en parler et de le raconter parce que j'ai compris après ce qui se passait. Cette histoire de poche des eaux, cette histoire d'évacuation, voilà. Et pareil, on nous a pas dit quoi en faire. Enfin, il m'a pas dit quoi faire de cet embryon, mais pour moi, avec du recul, ça avait peut-être une importance. J'aurais peut-être, enfin, j'en sais rien. Enfin, on l'a mis à la poubelle, quoi. Et ah ouais. Moi, ça m'a vachement chamboulée aussi, parce que
quelle violence, quoi.
On aurait pu le mettre dans les toilettes ou la poubelle, mais en fait, tu vois, enfin, avec du recul, j'étais là pendant les jours qui suivaient, j'étais là, mais je l'ai mis à la poubelle, enfin.
Ouais, vois. Après coup, sur le moment, c'était...
Bah, de toute façon, c'est mon chéri qui, voilà, il a pris, il l'a mis dans la poubelle, enfin, voilà, on pouvait pas aller, c'était gros, on pouvait pas l'évacuer dans la... Ah bah oui, on voyait les poches, enfin, voilà, c'est comme ça, une fausse couche. C'est ça, la réalité. Quand ça va dans les toilettes, on le voit pas, mais c'est comme ça, que ça soit à 2 semaines ou à 11 semaines, enfin, tu vois. Et après, bah, c'était le soir, donc après, on s'est couché, et voilà, enfin, j'ai continué à avoir des saignements, mais ça... Il m'a dit abondant, mais en fait, c'est quand même vachement, enfin... C'est plus qu'abondant, quoi. C'est plus que des règles. Le mot qu'il a utilisé, c'est « vous aurez des règles abondantes ». Mais par contre, on est à 10 000 km des règles abondantes. Enfin, de ce qu'on peut s'imaginer comme des règles abondantes, quoi. Mm. De ce qui s'est passé là. Et moi, je me suis dit, je suis peut-être pas normale ou quoi. Enfin, et en fait, quand j'en ai parlé autour de moi après, on m'a dit « bah si, c'est ça que j'ai vécu aussi ». Enfin, sauf que c'était sur les toilettes. Bon, il y en a peu qui se retrouvent dans la baignoire. Moi, je me suis retrouvée dans la baignoire. Mais au moins, moi, j'ai besoin de voir les choses et de ressentir les choses. Donc finalement, bah, c'était peut-être mieux comme ça pour moi et c'est OK, quoi. Mon chéri, il a été un peu traumatisé, mais on en a parlé beaucoup. Et c'est vrai que bah, longtemps après, il s'est réveillé. Dès que j'allais aux toilettes la nuit, il avait peur, quoi. Voilà. Ça, il y a eu quand même des répercussions, quand même, ouais, pareil. Il a vécu quand même quelque chose de très fort. Après, il est dans la santé, il est kiné, enfin, je veux dire, voilà, il a quand même un peu des notions, mais quand même, c'était assez fort ce qu'on a vécu tous les deux. On a mis du temps quand même à se remettre. Et moi, après, je me suis trouvée très fatiguée. Je crois que c'est la plus grosse et le plus gros état. Bon, j'avais pas été encore enceinte, mais c'est le plus gros état de fatigue que j'ai eu de toute ma vie, psychologiquement, physiologiquement. Enfin, j'avais pas d'arrêt de travail. Bon, je suis à mon compte, mais quand même pas.
Enfin, ça se justifie, quoi, complètement. Ah
bah, complètement, que ce soit
physiquement.
Physiquement et psychologiquement
les deux,
aussi, quoi.
C'est
les deux,
une souffrance des deux, quoi.
Ah bah oui, mais moi j'ai mis plus. Et voilà, je suis retournée travailler. Le matin, je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci j'y vais. Et en fait, j'ai jamais pu partir de chez moi. Il m'a fallu 3 semaines, quoi, pour réussir à retourner travailler, avoir la force physique et psychique d'aller travailler, quoi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'avais une écho, il m'avait juste donné un rendez-vous d'une écho dans 3 semaines, quoi, c'est tout. Personne s'est inquiété de savoir si j'avais pris le médicament, si j'avais évacué le truc ou pas, hein, vraiment, hein, ouais. On était livrés à nous-mêmes avec cette soi-disant règle abondante, quoi, mais non.
Et ta sage-femme, du coup ?
Cette sage-femme, je l'ai jamais revue, parce que quand je l'ai appelée pour lui dire, enfin, je me suis pas sentie accueillie, quoi.
En fait,
j'ai changé de sage-femme, quoi.
En fait, elle était plus dans l'accueil de la vie, mais par contre, elle était pas, ouais, dans cet aspect Et pourtant, c'est la maternité, quoi. Ouais. Que ce soit une IVG ou que ce soit une fausse couche une IMG, tout ça, c'est la maternité. Mmh. Et ça mérite d'être accompagné de la même façon, finalement.
Mmh. En fait, je pense que j'ai senti que c'était comme si c'était banal. Et j'en entends que pour une sage-femme, c'est peut-être banal, les fausses couches. Mais pour une femme qui le vit pour la première fois, c'est pas banal, en fait. Voilà. j'ai senti comme une banalité du côté du gynéco, du côté de la sage-femme. Et en fait, quand on est en train de vivre une fausse couche, on n'a pas envie d'être accueilli comme comme quelque chose de banal. Non, c'est pas pour moi qui étais en train de le vivre, c'était pas banal, c'était l'expérience la plus difficile de toute ma vie, en fait.
D'ailleurs, je trouve que on dit fausse couche jusqu'à très très tard, hein. Même si moi, il y en a qui disent fausse couche tardive.
Ouais.
Et pour moi, fausse couche, c'est un mot trop banal par rapport à ce qu'on ressent. Je sais pas ce que tu en penses, mais fausse couche, ça me paraît tellement...
Fausse couche, ça veut dire quoi? Fausse. C'est faux ce que j'ai vécu.
Enfin, ouais, voilà, c'est ça.
Moi, je porte beaucoup d'importance au mot et fausse couche.
Bah voilà. Moi aussi, c'est un terme, fausse couche, qui...
C'est pas beau.
Ouais, et puis que je trouve pas adapté, en fait, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent, dans les faits, quoi. C'est pas ça.
Moi, j'aime bien le mot, c'est plusieurs mots, mais interruption naturelle de grossesse.
Oui.
Voilà. Je trouve ça plus... Il y a le mot naturel, il y a interruption, il y a le mot grossesse, donc ça met plus de vérité dans le vécu, quoi. Voilà. Mais bon, après ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements à faire à ce niveau-là. Enfin, on est dans le déni des 3 premiers mois de grossesse de la femme en France.
Mais t'as raison, ce serait bien adapté, puisqu'il y a bien IMG, interruption médicale de grossesse, IVG, interruption volontaire de grossesse, et donc, pourquoi pas, ING.
Ouais, c'est ça. Voilà, et s'en est suivi après des semaines de rétablissement. Moi, je sentais que c'était pas totalement fini, qu'il me restait encore quelque chose dans mon ventre. Je le sentais, c'était du ressenti.
Et est-ce que du coup, on t'a proposé une prise en charge psychologique, un accompagnement quand même?
Bah non, pas du tout. Enfin, puisque j'avais juste le rendez-vous aux 3 semaines, moi, j'ai décidé, dès la première semaine après ma fausse couche, de contacter du coup des collègues hypnothérapeutes, une en particulier du coup qui m'a largement accompagnée là-dedans. Déjà parce que je sentais que c'était pas terminé, que j'avais un rendez-vous de contrôle du coup, et je sentais que je voulais aller à ce rendez-vous de contrôle et pas... Enfin, que ça soit fini, quoi, que mon utérus soit OK et tout. Du coup, je l'ai contacté, on a travaillé là-dessus. Et effectivement, j'ai de nouveau eu des très forts saignements, comme s'il y avait quelque chose qui s'évacuait encore. Donc, mes ressentis étaient encore une fois bons. Enfin, ça, c'est mon analyse à moi. Et puis, après, j'ai fait, il me semble, 2 rendez-vous avec elle. J'ai fait le rendez-vous avec le gynéco, qui m'a dit que tout était OK, tout était bon. Vérifier les taux. Voilà. Après, eux, ils checkent juste le côté médical, en fait. Ils checkent l'utérus, on vérifie les taux qui descendent bien pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui sécrète l'hormone de grossesse. Et voilà, après, bye bye, quoi. Le gynéco, je ne l'ai plus vu, quoi. Enfin, c'était terminé, en fait. La sage-femme, bon, bah, je l'ai juste revue pour payer mes séances de prise en charge de grossesse. Et puis, c'était fini. Elle n'a pas eu un mot de plus, hein. Pourtant, c'était une sage-femme qui était sur le papier que j'avais choisi, hein, mais bon, voilà. Pour le coup, là, je me suis retrouvée sans rien. Et c'est moi qui ai fait la démarche, parce que comme je suis un peu dans le milieu, bah, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse aider. Mais encore, j'ai mis du temps à capter qu'il fallait que je me fasse vraiment aider, quoi.
C'est bizarre, en fait, qu'une sage-femme qui est plus sur le côté, justement, peut-être plus humain que médical, que le gynéco, qui est docteur, ne t'oriente pas. Parce que même si elle ne se sent pas capable, ce qui devait être le cas, de prendre en charge ce genre de problème, ou ça ne l'intéressait pas, elle aurait pu quand même t'orienter vers une collègue, vers une psychologue, voilà, vers quelqu'un de compétent.
Bah, carrément, c'était possible, au moins de le proposer, au moins de dire que c'était possible. Il y a des assos, de dire que c'est possible, que c'est cette possibilité-là, et que c'est normal, en fait, de se faire accompagner après une fausse couche, c'est OK, quoi. Parce que moi, j'ai quand même entendu beaucoup. Après, je suis très bien entourée, donc je l'ai peu entendu, mais je sais qu'il y a des femmes qui l'entendent encore plus. Mais c'est normal, ça se trouve, il y avait un problème, donc c'est mieux comme ça. Et ça, c'est horrible d'entendre ça. C'est la phrase la pire qu'on peut dire à une femme qui vient de faire une fausse couche. C'est complètement ne pas considérer ce qu'elle vient de vivre. Moi, j'avais pas besoin d'entendre ça. J'avais besoin d'entendre que c'est normal que je sois triste, que c'est normal que j'étais pas bien, que c'était normal que ça soit dur. Après, j'ai eu de la chance, c'est que je me suis dit tout de suite, il faut que j'en parle. Et je l'ai dit, en fait. Et je l'ai dit à plusieurs... j'ai commencé à parler du fait que j'avais fait une fausse couche, même aux personnes qui ne savaient pas que j'étais enceinte. à des amis, à des copines, des connaissances. Et là, les langues se sont déliées. Des amis que je connaissais depuis longtemps, des copines qui sont un peu moins proches mais que je connaissais depuis longtemps, m'ont dit qu'elles avaient fait des fausses couches et je le savais même pas. Autour de moi, j'ai une dizaine de femmes qui se sont ouvertes et qui m'ont dit « Moi aussi, j'ai fait une fausse couche. » Et je les côtoyais, c'était dans des collègues que je voyais tous les jours qui m'ont, en fait, il y a un tabou. Je me suis rendu compte de la puissance du tabou autour de la fausse couche. Je me suis dit, c'est incroyable.
C'est de la folie. Parce qu'en fait, en général, les femmes ne l'ont pas annoncé aux proches. Donc finalement, elles restent dans ce secret, seules, face à leurs souffrances, à leurs doutes, à leurs peurs. Et c'est un véritable souci, je pense. Hein. Parce que qui a dit qu'il ne fallait pas annoncer avant les 3 mois, quoi ? Je veux dire, à un moment, c'est devenu quelque chose de je sais pas, un accord qu'on a fait avec la société de ne pas dire avant 3 mois. Enfin, c'est bizarre, quoi, non ?
De toute façon, même pour la sécu, même tout ça, avant 3 mois, on n'est pas enceinte puisque on a le certificat de grossesse à l'écho de T1. Sauf que quand on tombe enceinte, même si ça dure une semaine, il y a quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de nous, dans ce que j'appelle la matrice dans notre corps. Et on devient mère, même quand, à partir du moment où on a un test de grossesse positive, il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur de nous, dans notre cœur peut-être, je sais pas, peu importe les croyances, mais on devient mère, même si c'est quelques minutes, même si c'est quelques secondes, même si c'est quelques semaines. Et en fait, ça, c'est ça qui est dur, je pense. Ensuite, c'est qu'il y a un deuil à faire derrière. Et ce deuil, il n'est pas du tout accompagné. Et on n'a pas, si on n'est pas un peu, si on n'a pas des connaissances là-dedans, on ne sait pas qu'il y a ce deuil à faire là. Et en fait, souvent, c'est des choses qui restent, des choses qu'on met de côté. Ça reste à l'intérieur de nous. Et bon, voilà, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est des traumas. Les fausses couches, ça crée des traumas. Et si on n'accompagne pas ce deuil, et ben, ça peut ressortir des années après, en fait. Et moi, c'est ce que je vois dans mon travail. C'est qu'il y a des femmes qui viennent me voir pour des problématiques peut-être qui n'ont rien à voir avec la maternité ou avec la grossesse, ou peut-être que si. Et quand on creuse, le nœud émotionnel, il se trouve au niveau de cette fausse couche, en fait, qui n'a pas été... le deuil ne s'est pas fait, en fait. Et voilà, moi, quand il y a des fausses couches comme ça, qui sont même très anciennes, j'accompagne le deuil, même 10 ans après, ça peut se faire. Et moi, c'est vrai que j'avais cette conscience-là, et ça m'a permis de mettre en place plusieurs étapes qui m'ont permis de faire, je pense, le deuil à un moment donné. Au début, j'ai laissé les choses couler, j'ai attendu que, voilà, j'étais repartie sur l'envie de ce bébé, quoi, que j'attendais depuis quand même, au bout d'un moment, depuis un an. Je sais qu'il y a des femmes qui attendent beaucoup plus longtemps, ça, voilà, mais c'est chacun son histoire. Donc, je suis retombée enceinte de ma fille, voilà, 3 mois après. Donc, c'est vrai que c'était 3 cycles, ça s'est fait rapidement, le temps que le corps se remette en marche. Ça peut revenir tout de suite au cycle d'après, hein. Voilà, ça a mis 3 mois, pour moi ça a été rapide et court. Sauf qu'au début de ma grossesse de ma fille, j'étais très très mal, j'ai beaucoup d'angoisse. Et j'avais plein de saignements.
Ah
un bon truc de fou, ouais. Je me suis retrouvée au moins, je sais pas, 5 fois aux urgences.
Et puis à chaque fois, du coup, ça te rappelait ce que tu avais déjà vécu ?
Là, ça a été le premier trimestre de ma grossesse, de ma deuxième grossesse, du coup, a été hyper, 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 hyper dur. Ça a été, ouais, je me suis retrouvée au pied du mur plein de fois. Ouais, j'ai pensé plusieurs fois que c'était terminé une deuxième fois, quoi. Parce que j'avais ces saignements, hein. Et jusqu'au jour où j'ai décidé, donc ça va peut-être paraître un peu perché pour certaines personnes, mais voilà, ça m'a vraiment aidée de faire un rituel de deuil pour cette première fausse couche. Donc ça, moi je pense qu'on peut l'adapter en fonction de ses croyances et de ses envies. Mais déjà, on s'est autorisé, je me suis autorisée à lui donner un prénom à ce bébé. Et ça, c'est quelque chose que je fais quand j'accompagne les femmes.
C'est un prénom mixte, du coup.
C'est ce qui m'est venu, c'est un truc qui m'est venu comme ça, après, de manière très intuitive, mais bon, c'est mon fonctionnement.
Tu peux en parler, là, tu peux pas dire le prénom.
Si, c'est pas un prénom en plus que j'aurais pu donner, mais ça, pareil, c'est comme ça, ça m'est venu. Je l'ai appelé Perceval, je sais
D'accord.
pas pourquoi, en fait, c'est comme ça, c'est pas un prénom, non, mais c'est un peu fou, hein, mais c'est pas un prénom, et j'ai donné qu'un seul prénom, ça, j'ai jamais su pourquoi, mais il y a qu'un prénom qui m'est venu, pourtant il y avait 2 postes, voilà. Mais je me dis, ça rassemble les deux, en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est pas un prénom que j'aurais pu donner à mon bébé, hein, Perceval, mais c'est ça qui m'est venu, donc je l'ai appelé comme ça,
oui.
Je l'ai appelé Perceval, voilà. Bon, c'est pas quelque chose que je dis souvent, mais voilà, là, je le dis, il est écrit quelque part, parce que j'ai une petite boîte souvenir, en plus, et voilà.
C'est bien tout ce que t'as mis en place,
ouais,
en
c'est
fait,
ça.
Pour toi, te faire ton propre accompagnement,
ouais.
Et ton propre deuil, parce que je pense que chacune doit trouver ce qui lui convient, parce qu'il y a différentes... manière de faire un deuil.
Moi, je pense que c'est important d'inscrire cette grossesse dans la matière. J'ai écrit une lettre à ce bébé parce que j'avais besoin de dire certaines choses et c'est important. J'ai pris un truc symbolique, une petite poupée que ma maman m'avait achetée quand elle a su que j'étais enceinte, une toute petite poupée. Et j'ai tout mis dans une boîte et en fait, avec mon chéri, alors lui, il est hyper
cartésien,
mais bon, il a accepté de le faire avec moi. On a été dans la forêt et j'ai enterré cette petite boîte dans la forêt. Voilà. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus eu aucun saignement. Plus rien, ça s'est arrêté. Et un peu plus tard, il y a une sage-femme qui m'a dit, tu sais Chloé, un utérus qui saigne, c'est un utérus qui pleure.
Oh, c'est émouvant. C'est...
Ouais, ça, et là j'ai fait, c'était peut-être ça en fait le truc. Je pense que j'avais pas fait le deuil de cette première grossesse et qu'il fallait vraiment que je le fasse pour m'installer dans cette seconde grossesse qui allait donner la vie à ma fille, quoi.
Et le pire, là je réalise un truc de ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que non seulement tu avais des saignements, mais en plus, lors de tes premières prises de sang, le taux ne montait pas de bêta-HCG.
Ah oui.
Comme si c'était terminé, alors qu'en vrai, elle évoluait, elle se développait, ta fille.
Oui, c'est ce qu'on s'est dit en off tout à l'heure, c'est que mon taux de bêta-HCG a mis beaucoup de temps à monter. J'ai eu des saignements dès la... J'ai su que j'étais enceinte, alors j'ai fait le test, j'étais pas du tout enjouée. J'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai fait une prise de sang, le taux il était très bas. Une deuxième, le taux encore très bas. Puis on a fait l'écho la T1, tout allait bien. Bon, j'ai gardé quelques angoisses pendant ma grossesse, mais on est vraiment passé du cauchemar du premier trimestre avec cette angoisse importante. Puis bon, je me suis fait accompagner aussi. Là, vraiment, j'étais suivie par un thérapeute. Et puis, je faisais des séances d'hypnose en plus quand j'en ressentais le besoin. Et voilà, je me suis fait vraiment suivre et accompagner psychologiquement pendant cette seconde grossesse.
J'ai des internautes qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui traversent cette épreuve? Comment parler, que ce soit de ce sujet ou non, avec eux? Est-ce qu'ils veulent en parler ou plutôt pas du tout? Voilà, c'est le questionnement de personnes qui ne l'ont pas vécu mais qui ne savent pas comment réagir et se comporter face à ce que les autres vivent.
Ah, c'est une bonne question. J'aime bien cette question. Je pense qu'il n'y a pas une réponse. Si je peux donner peut-être des pistes ou des conseils, mon premier conseil, c'est ne rien dire et écouter. Je pense qu'une femme qui vient de vivre une fausse couche, alors ça dépend de quelle proximité vous avez avec elle, mais en tout cas, c'est de lui proposer votre oreille, de dire est-ce que tu as besoin d'en parler, je suis là, est-ce que tu veux me raconter? Parce que moi, j'ai eu vachement besoin de raconter ce qui m'est arrivé. Il y a des femmes qui n'ont pas avoir envie d'en parler, mais je sais qu'il y en a qui ont besoin. Donc être à l'écoute surtout, être à l'écoute de cette femme, sans forcément intervenir, ne pas parler de son vécu, c'est pas la peine à ce moment-là, c'est pas le besoin qui se présente. Une femme qui vient vivre une fausse couche, elle a besoin qu'on l'écoute.
Et par exemple, si on apprend qu'elle en a fait une, mais qu'elle ne nous en a pas parlé, on attend quand même qu'elle nous en parle.
Ça dépend de la proximité qu'on a avec elle, je pense, mais c'est d'être là, en fait. Par exemple, d'apporter des repas. Enfin, ça peut être une femme qui vient de faire une fausse couche, elle a besoin de bien manger, elle a besoin de se reposer, elle a besoin d'oreilles attentives, elle a besoin d'être entourée, d'être cajolée, d'être bercée, d'être prise dans les bras, il y a vraiment ça, je pense, qui vient. Elle est en train de vivre un deuil, en fait, même si c'est pas complètement conscient, il y a tout ça qui vient se mettre en place. C'est comme une femme qui vient de perdre un bébé plus tard, ou j'en sais rien, mais il y a vraiment ce truc d'être... C'est la même chose, c'est être à l'écoute, apporter son soutien moral et le soutien physique, donc lui proposer des repas, lui proposer de... lui faire un bon plat, un bon gâteau, c'est des trucs tout bêtes, mais je pense que c'est ce qui aide. Moi, ce qui m'a vraiment aidée dans mon histoire, c'est le fait d'être hyper entourée, en fait. C'est le fait d'avoir ma famille qui était là en quelques minutes. C'est le fait... je vais pleurer. C'est le fait d'avoir mon père qui me tend les bras et qui me dit « Vas-y, pleure, tu peux pleurer, pleure. » Cette sorte d'autorisation de pleurer, j'en avais besoin. C'est le fait d'avoir mon amie...
Toutes pleurer
ouais. C'est le fait d'avoir mon amie Magali qui était là... le lendemain, un truc tout con, mais qui m'a dit de quoi t'as besoin. J'avais pas assez de serviettes hygiéniques épaisses parce que j'avais pas conscience du truc, donc qui a été m'acheter ce dont j'avais besoin. C'est le fait d'avoir mes amis qui m'envoient, qui m'appellent tous les jours pour me demander comment j'allais. C'est la base, mais ça a été hyper important, et dans les premiers temps, ça a été vraiment le plus aidant. Ce qui m'a pas aidée, c'est les phrases comme ça veut dire que ça marche. On dit non, mais c'est vrai, on entend souvent ça. Je l'ai entendu, hein. Ça veut dire que ça marche.
Oui, merci.
Mais ça n'a pas marché cette fois-ci, en fait, les gars. C'est peut-être mieux comme ça.
Plutôt que d'avoir un enfant handicapé.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est le truc. Bon, c'est peut-être vrai, mais par contre, non, pour le coup, c'est pas ce que j'avais entendu. Ce que j'avais besoin, c'était vraiment d'être entourée.
Et en fait, ce qui est beau, c'est que tu as accouché d'un nouveau projet grâce à cette expérience.
Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis hypnothérapeute. Je pense que c'est aussi pour ça que pendant toute cette expérience-là, j'avais cette facilité de connexion avec mon corps parce que j'ai les outils qui sont là pour ça et je les ai utilisés parce que, bon, on dit les cordonniers les plus mal chaussés, mais quand on se retrouve au pied du mur, on cherche toutes les solutions possibles pour s'aider, quoi. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais envie, j'étais hypnothérapeute depuis 2 ans, 3 ans, et le domaine de la périnatalité m'appelait, mais un truc de fou, sauf que je me sentais pas du tout légitime pour aller là-dedans, quoi. C'était... Je me disais, je suis pas enceinte, j'ai pas eu d'enfant, qu'est-ce que je vais accompagner des femmes qui sont là-dedans, quoi. Et en fait, bon, bah, cette fausse couche m'a permis d'avoir cette légitimité, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais je me suis dit, bah, maintenant c'est bon, go. Et puis en plus, j'ai compris encore plus la puissance de l'intuition, la puissance de la connexion avec son corps, qu'on utilise beaucoup en hypnose, la puissance de la connexion avec l'inconscient, on peut appeler ça comme on veut. Mais je me suis dit, bah, il y a des trucs à faire, quoi. Je suis prête, ça y est, je suis prête. Et j'ai commencé. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'en revenant de mon congé de 3 semaines que j'ai pris moi-même, qu'on m'a pas donné, mais que j'ai pris après ma fausse couche, c'est que j'ai commencé à avoir des femmes qui venaient me voir en tant qu'hypnothérapeute et qui étaient enceintes et qui avaient la DPA, donc la date de grossesse qui était prévue à l'origine pour moi.
Ah oui, hyper si perturbant quand même.
Ouais, et là, j'en ai eu 3. 3 accompagnements de grossesse qui avaient la date prévue d'accouchement que j'aurais dû avoir pour ma fausse couche. Et donc, ça a été, j'en avais déjà fait un petit peu avant, mais là, ça a été véritablement mes premiers accompagnements de grossesse en tant qu'hypnothérapeute. Et puis, du fil en aiguille, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais de fil en aiguille, j'ai attiré de plus en plus de femmes dans le domaine de la maternité, de la périnatalité, parce que je pense que je me donnais enfin l'autorisation d'aller là-dedans. Donc, il y a eu moi, je dis toujours, on attire ce que l'on vibre, et là, je pense que du coup, c'était OK, quoi. Et aussi, je me suis spécialisée de plus en plus dans l'accompagnement de la fertilité, justement. C'est vraiment ma spécialité aujourd'hui. J'accompagne les femmes qui sont en désir, en projet bébé, et qui sont en difficulté souvent avec ce projet-là ou en questionnement, donc qui sont en parcours PMA ou non. Et j'en suis arrivée là aujourd'hui. 2 ans, moi ça fait 2 ans en janvier, 2 ans après ma fausse couche, j'ai un peu réalisé ce rêve d'être hypnothérapeute spécialisée en périnatalité et plus spécifiquement en fertilité.
Et du coup, tu exerces où ?
J'exerce à Tassin, près de Lyon, et en ligne, parce que c'est quand même un domaine qui est très spécifique, la fertilité, et du coup j'ai de plus en plus de femmes que j'accompagne qui sont dans la France entière et dans le monde entier aussi, parce que je pense que les femmes qui recherchent de l'aide en fertilité, elles ont besoin d'avoir quelqu'un en face qui sache de quoi on parle.
On va donc maintenant changer de casquette, et cette fois c'est l'hypnothérapeute spécialisée que je vais interroger. Alors Chloé, comment toi, en tant qu'hypnothérapeute, tu accompagnes les femmes qui viennent te voir par rapport à un deuil périnatal ou une fausse couche ?
En fait, du coup, moi on vient rarement me voir pour cette question-là, je vais m'expliquer. Une femme, elle va pas forcément faire la démarche de dire « je vais me faire accompagner parce que j'ai fait une fausse couche » ou « je vais faire accompagner dans le cadre d'un deuil périnatal ». C'est plutôt, elles viennent me voir parce qu'elles ont des symptômes, elles ont du mal à dormir, elles sont stressées, elles sont angoissées, donc elles vont venir pour ces questions-là. Mais en revanche, c'est souvent des problématiques qu'on retrouve en arrière-plan. Et quand on creuse, on retrouve la question de la fausse couche qui n'a pas été traitée depuis soit quelques mois, même plusieurs années. Ça arrive que j'ai des femmes, ça fait 10 ans qu'elles ont fait une fausse couche et elles n'ont jamais été accompagnées sur le sujet, le deuil n'a pas été fait. C'est comme si ce trauma s'était encapsulé à l'intérieur d'elles et tout d'un coup, un jour, ça va ressortir sur des symptômes et du coup, c'est le moment de l'accompagner, ça peut se faire 10 ans après. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, des fausses couches, et de dire que si vous en ressentez le besoin, et vraiment, il faut se poser la question de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on vient de faire une fausse couche, c'est intéressant de se faire accompagner après cette fausse couche, et dans les mois qui suivent aussi, parce que c'est pas quelque chose qui va se guérir forcément tout seul. Ça peut laisser des traces, et sur de nombreuses années.
Et quand tes clientes évoquent la fausse couche, comment tu vas travailler dessus en tant qu'hypnothérapeute ?
Alors, du coup, quand le sujet de la fausse couche vient, enfin en tout cas est amené pendant la séance, moi, c'est vrai que je ne travaille pas sur protocole, je travaille plutôt en fonction de ce qui vient, mais la fausse couche, j'ai quand même des habitudes autour de ça. Déjà, je vais questionner ce qui a été fait, parce que parfois, les femmes, elles ont déjà fait, par exemple, ce qu'on peut appeler des rituels de deuil, elles ont déjà donné un prénom, comme je l'évoquais tout à l'heure. Du coup, je vois où elles en sont, ce qui a été fait, si c'était il y a longtemps. Parfois, il y a même eu plusieurs fausses couches, ça arrive hein, qu'il y ait eu plusieurs fausses couches. Donc voilà, je fais un petit bilan, un état des lieux hein, de où elles en sont par rapport à cette problématique-là. Parfois, c'est la première fois qu'elles en parlent, elles n'en ont pas parlé. Ça s'est passé dans leur vie, puis elles n'en ont plus parlé depuis. Donc voilà, j'accompagne vraiment cette libération de la parole déjà autour de cette fausse couche. Je leur dis que c'est normal, par exemple, parce que si elles se mettent à pleurer, parce que ça arrive qu'il y ait des fortes émotions qui viennent, je leur explique que c'est normal d'avoir encore de l'émotion parce que le deuil n'a pas forcément été fait. Et du coup, à partir de là, la manière dont j'accompagne, il peut y avoir plusieurs propositions. Ça veut dire que soit on va faire ce qu'on appelle en hypnose un rituel de deuil. Je vais accompagner le deuil en séance d'hypnose, donc en état d'hypnose. Donc ça peut être aller rencontrer ce bébé qu'on a perdu. Parce que moi, pour moi, dans mes croyances, à partir du moment où on est enceinte, à partir du moment où il y a un test de grossesse positif, on devient maman. On devient même maman avant d'être enceinte, quand on pense à être maman, ou en tout cas quand on est dans le projet bébé, il y a déjà quelque chose qui se crée à l'intérieur de soi. Mais dans leur cœur, elles ont été mamans une fois à ce moment-là, et peut-être qu'elles ont d'autres enfants, et du coup ça compte dans leur maternité. Je leur dis, vous avez déjà été maman à ce moment-là. Si elles ont par exemple deux enfants vivants, si je peux me permettre, l'enfant qu'elles ont perdu lors de cette fausse couche, ça fait partie. Je leur dis, vous avez été maman trois fois. La fausse couche et puis vos deux enfants. Et ça crée déjà une connexion à l'intérieur d'elles, et elles peuvent reconnecter leur tête et leur cœur, parce que dans leur cœur, c'est ça ce qui se passe. Cette maternité a une existence. Et le fait qu'il y ait un tabou autour des fausses couches, on l'oublie, on le met de côté. Sauf qu'à l'intérieur de soi, quand on a vécu une fausse couche, il y a quand même des choses qui se sont passées émotionnellement. Et mettre de côté tout ça, ça rend très triste. Et c'est pour ça qu'il y a cette tristesse qui accompagne longtemps, pendant longtemps, les femmes qui ont fait des fausses couches, même si elles ne se rendent pas compte. C'est qu'il y a ce déni de la société face à cette maternité à ce moment-là. Mais ça, c'est en fonction des croyances de chacune. C'est pour ça que je questionne au début comment elles ont vécu le début de cette grossesse, à combien de semaines c'était, comment elles se sont senties. Il y a des femmes qui vont me dire, effectivement, ben, moi, voilà, c'était un œuf clair, ou en tout cas, je ne l'ai pas appris comme ça, je ne me suis pas sentie maman à ce moment-là. Pour moi, émotionnellement, ça a été compliqué, mais bon, finalement, voilà, ça fait partie de ma vie et tout. Bon, du coup, ces femmes-là, généralement, on n'en arrive pas à ce sujet-là en séance. C'est quelque chose qui est réglé pour elles, parce que ça peut se régler, une fausse couche. On peut faire ce deuil soi-même, c'est possible. Mais il y a pour certaines femmes pour qui c'est beaucoup plus compliqué et pour qui ça reste. Et c'est ces femmes-là que j'accompagne en général. Donc il y a toute cette séance d'hypnose autour de ce deuil. Et puis aussi, je leur propose de faire des choses à côté, avec leurs conjoints, ils sont d'accord. Et souvent, c'est vrai qu'on oublie les conjoints dans cette histoire-là, mais il y a eu quelque chose, donc je leur propose d'en reparler avec leurs conjoints, d'en discuter avec eux. Et puis, il y a l'histoire du prénom, comme j'en ai parlé tout à l'heure. C'est cette question-là, je leur dis que c'est possible de donner un prénom. Et au début, je n'osais pas, parce que je me disais, c'est un peu fou, c'est tes idées, c'est un peu perché et tout. Et en fait, je me rends compte que la plupart des femmes le font et osent le faire. Et en fait, ça inscrit cette fausse couche dans la généalogie, ce qu'on appelle la systémie familiale. Mais ça, c'est important d'inscrire cette fausse couche et d'en parler aussi aux frères et sœurs, entre guillemets, parce que ça fait partie de leur histoire. Un enfant qui est né après une fausse couche, on appelle ça un bébé arc-en-ciel. Et on dit que ces bébés-là, ils ont notion qu'avant eux, il y a eu de la vie déjà, dans la matrice, dans l'utérus de leur maman. Donc inconsciemment, ils savent. Donc si c'est un sujet tabou à la maison, si on n'en parle pas, il peut y avoir des sortes de non-dits. Émotionnellement, ça peut être compliqué pour l'enfant. Donc à l'âge où il est capable d'entendre certaines choses, où il pose des questions, ça peut être intéressant d'en parler. Donc j'accompagne là-dedans aussi. Et puis, Il y a le rituel dont je parlais, que j'avais fait pour moi, que je peux proposer aux femmes de faire aussi, toutes seules avec leur mari, écrire une lettre à leur bébé, enfin voilà, toute cette libération émotionnelle, tous ces non-dits qui ont été gardés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qui sont importants de libérer, et c'est ce qui fait que le deuil va pouvoir être enfin fait.
Ce sont des soins qui demandent combien de séances environ ? Est-ce que ce sont des thérapies brèves ou plutôt sur du long terme ?
Ça dépend des femmes et ça dépend de leur rythme. Bon, c'est pas une réponse très claire, mais c'est vrai qu'un accompagnement de deuil de fausse couche, ça se fait assez rapidement en général, parce que c'est là, c'est prêt. Il suffit juste de libérer la parole, de libérer les émotions, et quand c'est accompagné, entouré en bienveillance, c'est vrai que moi, généralement, en une, deux séances, on en reparle à la deuxième et puis c'est fait. Mais comme c'est dans le cadre d'une thérapie plus globale, ça s'insère à l'intérieur, donc le temps n'est pas trop la question, chacun a son rythme. C'est des questions aussi, les fausses couches, que je retrouve, des problématiques que je retrouve beaucoup dans les parcours de fertilité. Hein. Les femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont des difficultés à tomber enceinte une nouvelle fois, ou qui font fausse couche sur fausse couche, ça arrive, il y a des problématiques de santé qui font qu'on fait des fausses couches à répétition. C'est dans le cadre d'un accompagnement de la fertilité, donc c'est des choses qu'on fait au fur et à mesure. Soit on le fait en séance ensemble, soit elles font leur rituel de deuil de leur côté, je leur envoie des documents pour les accompagner, et ça se fait dans le cadre de la prise en charge. Mais effectivement, c'est pas une prise en charge, si on parle juste de la prise en charge de la fausse couche, en elle-même, c'est pas une prise en charge qui est très longue. Après, l'hypnose, c'est de la thérapie brève, de toute façon. Donc c'est pas de la thérapie instantanée, donc moi je suis pas pour les séances uniques, tout ça, j'aime bien faire des accompagnements sur plusieurs séances. Mais par contre, on est dans de la thérapie brève, donc j'ai une moyenne de 3 à 5 séances sur différentes problématiques.
Et comment se déroule concrètement une séance d'hypnose avec toi ? Est-ce qu'on s'allonge, on reste assis, on parle, on écoute ?
Alors, une séance d'hypnose, franchement, ça va dépendre du thérapeute que vous allez voir, l'hypnothérapeute, du praticien en hypnose que vous allez voir. Donc, je vais parler pour moi. Moi, déjà, comme je disais tout à l'heure, j'ai une pratique où je travaille sur plusieurs séances. Je vais avoir une première séance d'introduction, de rencontre, parce que je ne suis pas la thérapeute de tout le monde. Donc, il faut aussi que quand vous venez en séance, vous vous sentiez à l'aise, bien, en confiance. Et ça, c'est la première séance qui détermine. Moi, j'ai besoin de vous connaître aussi. Donc, à la première séance, ça me permet de poser pas mal de questions sur votre vécu, ce qui se passe pour vous, pourquoi vous venez. Comme je ne travaille pas sur protocole, j'ai besoin de vous connaître pour que ma pratique soit la plus ajustée aux besoins et à la demande de la personne qui vient me voir. Du coup, c'est cette première séance d'introduction. Ensuite, il y a là où les séances de travail, où là, on travaille peut-être plus concrètement avec plus d'outils, ce que j'appelle les outils hypnotiques, avec de l'hypnose, avec de l'hypnose conversationnelle, avec... En tout cas, moi, j'ai une pratique assez diversifiée au fur et à mesure de mes formations. J'ai acquis plein d'outils différents. Donc, je fais ma petite popote et je vous accompagne là-dessus. Et ensuite, il y a la séance de conclusion où on se dit que, voilà, vous avez atteint vos objectifs. Et du coup, on se dit au revoir, en quelque sorte. Comment ça se passe une séance d'hypnose concrètement ? Donc, la personne rentre dans la salle, on se dit bonjour, et puis ensuite elle s'allonge et elle s'endort. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc l'hypnose, ça peut se faire assis, ça peut se faire debout, ça peut se faire allongé. Moi, dans ma pratique, je fais pas allongé parce que l'objectif, c'est pas que les personnes que j'accompagne s'endorment. C'est qu'il y ait un changement qui se crée, en quelque sorte. C'est qu'elles soient actives dans leur changement. Donc, je suis pas très pour l'hypnose allongée. En tout cas, dans ma pratique, après, ça peut très bien se faire et chaque praticien fait comme il le sent et c'est très bien. Mais moi, voilà, ça se passe assis ou debout. Et en fait, l'état d'hypnose, il est amené très naturellement au fur et à mesure de la séance. C'est-à-dire que tout est état d'hypnose, les émotions, la visualisation, l'imagination. Donc c'est quelque chose qui vient très naturellement. Il n'y a pas des étapes très définies dans mes séances. C'est pas on parle, ensuite vous fermez les yeux, et ensuite il y a l'état d'hypnose qui vient tout seul. C'est non, ça se fait au fur et à mesure. Moi, je travaille beaucoup avec les émotions, et les émotions, c'est de très bons guides pour nous amener là où il y a besoin d'aller travailler, à la source, là où est la problématique en général. Et j'ai une pratique qu'on appelle d'hypnose régressive. Donc moi, je travaille beaucoup avec des régressions. Donc ça peut être des régressions dans votre vie en général, ça peut être des régressions, ce qu'on appelle en transgénérationnel. Donc là, on va pas rentrer dans le sujet parce que c'est un peu complexe, mais peut-être ce que vous portez aujourd'hui, en tout cas ce qui est lié à votre problématique, ça peut être dû à, pas forcément à votre vécu, ça peut être dû au vécu de votre lignée, c'est-à-dire de vos parents, de vos grands-parents, et ça de toute façon maintenant on le sait, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est prouvé scientifiquement, on porte les traumas de nos parents et de nos grands-parents. C'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, en hypnose, on peut aller travailler sur ces traumas-là, en remonter beaucoup plus loin que votre vie à vous et aller débloquer les blocages qui sont créés depuis peut-être même des centaines d'années. Donc voilà, ça se fait naturellement. Et par exemple, je sais pas, vous venez, il y a une émotion... je questionne votre problématique... Il y a une émotion qui en sort, on travaille sur cette émotion, on regarde d'où elle vient, où elle est dans votre corps. Et cette émotion, c'est comme si c'était un fil rouge qui allait nous amener à son origine. Et souvent, les émotions, elles ont une origine dans l'enfance. Alors l'objectif, ça, parfois ça peut faire peur dit comme ça, mais l'objectif, c'est pas d'aller, déterrer des cadavres ou aller chercher des trucs très compliqués émotionnellement. Ça peut être des micro-traumas très simples, on s'en est même pas rendu compte, mais il y a quelque chose qui s'est déclenché à l'intérieur de vous à ce moment-là qui a créé un blocage émotionnel et que vous ressentez encore des années après. Donc on suit le fil rouge de cette émotion avec des techniques, bon là, qui sont un petit peu compliquées à expliquer, mais vous êtes les yeux fermés, assis en général, parfois debout, et puis ça se fait tout seul en fait, on fait confiance à ce qui vient. Parfois il n'y a que moi qui parle et j'accompagne les gens dans leur imagination et dans leur visualisation, et parfois il y a un échange, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en état d'hypnose qu'on peut pas parler, au contraire. On peut faire parler son imagination, on peut faire parler différentes parties de soi, ce qu'on appelle l'inconscient en hypnose. C'est pas une et une seule unique chose à l'intérieur de nous, on appelle plutôt ça les parts inconscientes, donc on peut rentrer en discussion avec plusieurs parts de soi. Alors ça peut paraître complètement dingue dit comme ça, mais c'est l'hypnose, c'est comme ça, l'hypnose c'est magique, il y a quelque chose de magique dans l'hypnose, c'est, on rentre dans des sensations qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie réelle. Et voilà, après c'est hyper sécuritaire parce que vous êtes en face de quelqu'un qui connaît son travail, et ça je pense que je peux le dire, et c'est important de faire de l'hypnose avec quelqu'un avec qui on est en confiance. C'est pas open bar à l'inconscient comme ça se fait tout seul, non, c'est, faut être en confiance. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez vécu une fausse couche, et qu'aujourd'hui vous sentez que c'est pas à régler pour vous, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que c'est compliqué, que quand vous y pensez il y a une très forte émotion, faites-vous accompagner, que ça soit en hypnose, que ça soit avec un psychologue, que ça soit avec peu importe quel thérapeute, mais avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, restez pas avec ça, c'est important. Et puis moi je suis pour la libération de la parole autour des fausses couches, j'en parle très facilement, j'en parle assez ouvertement, et je pense que c'est ça qui va aider les femmes aussi à mieux vivre cette expérience de la fausse couche, parce que ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui, c'est que c'est un tabou, et moi je suis pas ok avec ça, je veux plus que les fausses couches soient un tabou, je veux que ça soit quelque chose dont on parle, parce que ça arrive à 10% des femmes, et donc c'est quand même, c'est-à-dire que si vous avez 10 femmes autour de vous, il y en a une qui a vécu ou qui vivra une fausse couche, et du coup c'est pas rien, et c'est important d'en parler. Et du coup, c'est pour ça que je voulais te remercier, Angie, de m'avoir permis d'en parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, que j'avais ça en tête, je savais pas où, je savais pas quand, et là, ça se fait avec toi, et je suis heureuse d'en parler, parce que je pense que c'est important de raconter nos histoires, et c'est important d'en parler, et du coup, merci pour ça.
J'espère que ce témoignage vous a permis de comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'il est important d'aller trouver de l'aide autour de soi, auprès de ses proches et des professionnels afin d'entamer un processus de deuil essentiel à votre bon rétablissement psychique. À la base, j'avais invité deux femmes pour venir s'exprimer lors de cette unique émission sur le sujet, mais il m'a été impossible de couper les paroles poignantes de chacune pour vous proposer un contenu d'une durée correcte. Alors, la prochaine page de mon journal sera aussi consacrée à cette thématique. Vous y retrouverez le témoignage d'Alison, qui de façon très troublante comporte beaucoup de similitudes avec celui de Chloé. Je referme alors mon journal pour aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à suivre mes essais bébés sur NG Woman Pregnancy. Envoyez-moi vos suggestions de sujets, vos remarques, vos réactions cela me sera très utile. Et puis, comme ce podcast démarre, n'hésitez pas à le noter aussi et à laisser des commentaires si vous avez aimé. Au revoir, cher journal. À bientôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.